Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cette émission spéciale Ukraine. C'est la quatrième émission que nous consacrons à l'Ukraine depuis le début de cette fichue guerre. Et j'ai vraiment le grand plaisir de recevoir aujourd'hui deux Ukrainiennes. L'une qui vit en France depuis 20 ans, que je connais un peu. Elle s'appelle Natacha, c'est la raison pour laquelle elle a accepté de parler aujourd'hui. Et en face d'elle, vous ne pouvez pas la voir, mais elle est bien là, c'est Yana, qui est son amie d'enfance et qui, elle, revient tout juste finalement de l'enfer d'Ukraine. Natacha est allée la chercher à Berlin, voyage express, et voilà que Yana est aujourd'hui à Chartres. On va parler avec elle, bien évidemment, de la situation là-bas à Zaporijia. C'est une ville qui est plutôt russophone. Elle nous dira où exactement sur la carte de l'Ukraine. Mais je vais tout d'abord m'adresser à Natacha. Natacha, donc vous êtes en France depuis 20 ans. Moi, je voudrais que vous nous parliez un petit peu de cette ville déjà, Zaporijia, dans laquelle vous avez grandi, vous êtes né là-bas. Et puis, dans quelles conditions? À quoi ressemblait Zaporijia à l'époque? Et puis, à quoi ressemblaient les relations entre l'Ukraine et la Russie à l'époque?
Bon, Zaporijia, quand je l'ai quitté, c'était une ville paisible. Il faut savoir que c'est un grand centre industriel sur le Dniepr, hein, un grand fleuve. Et il y a des grosses usines, la sidérurgie. C'était une ville importante à l'époque. Et donc, toute mon enfance, ma jeunesse sont passées là-bas. Et au moment où j'ai quitté le pays, c'était déjà en 2001, bien après la chute de l'Union soviétique. Et c'est là où les difficultés économiques ont commencé, avec une légère dégradation de la situation. Mon avis, je pense qu'il est quand même subjectif, mais en ce qui concerne la relation entre les Russes et les Ukrainiens, la population, pour moi, c'est mon souvenir d'enfance où on ne faisait jamais la distinction entre les peuples, puisque c'était tellement historiquement mélangé. On parlait les deux langues parce que malgré le fait que ce soit une région russophone, les voisins, les grands-parents de mes amis d'enfance, ils parlaient ukrainien aussi et ça n'a jamais posé de problème de compréhension puisque nous, on maîtrisait les deux langues.
C'est-à-dire qu'en fait, il n'y avait pas réellement de distinction entre ukrainiens et russes. Là, vous allez parler, par exemple, vous allez parler russe durant cette émission parce que vous avez grandi parlant russe toutes les deux. Est-ce que vous considériez avant toute chose comme ukrainienne ou comme russe ou quel était le sentiment d'identité à l'époque?
Moi, je suis pur produit de l'Union soviétique, oui. Si vous voulez. Mon enfance et ma jeunesse, c'était ça. Et c'était pour beaucoup une époque heureuse pour mes parents, pour nous aussi. La jeunesse, l'enfance insouciante, enfin, j'ai fait mes études là-bas, je n'ai jamais connu aucune difficulté. Et donc, comment on se considérait?
Oui.
Je ne me suis jamais vraiment posé cette question, à vrai dire.
Oui. C'est une question qui ne se posait pas, ou très peu, quoi.
Je souligne que ça peut être subjectif. Peut-être il y aura des personnes qui ne seront pas d'accord avec moi. Mais moi, j'ai toujours été assez naïve, si j'ose dire. Je prenais les gens, je voyais que les bons côtés, et c'est dans ma nature. Donc, je peux me tromper là-dessus.
Enfin, en tout cas, c'est votre propre ressenti, et c'est celui-ci qu'on veut avoir, bien évidemment, aujourd'hui. J'imagine que vous avez été totalement stupéfaite par cette attaque. Où est-ce que vous la voyiez venir?
Non. Comme tout le monde, on suivait les événements à la radio, on entendait Biden prévenir l'Occident et tous les pays du monde que ça se préparait. Mais en tant qu'habitant de l'Ukraine, et puis j'ai beaucoup d'amis russes aussi qui habitent en Russie et qui sont de Russie, même ici en France, et j'avoue que personne ne croyait vraiment jusqu'au dernier. Enfin, même quand c'est arrivé, on avait du mal à y croire, tout simplement. on n'y croyait pas que ce soit possible.
Alors je vous pose une question toute bête. Comment se fait-il qu'il y ait des régions russophones et d'autres régions qui ne le sont pas en Ukraine ?
Ça, c'est une question historique et il faut se renseigner. Je préfère ne pas me tromper.
Mais ça n'a rien à voir avec les origines des personnes, c'est-à-dire que vous n'êtes pas, par exemple, d'origine russe ou non, pas du tout.
Ma grand-mère paternelle, elle est ukrainienne. Mon grand-père paternel, par exemple, on ne sait même pas, comme il était enfant orphelin, on ne sait pas d'où il vient. Donc c'est difficile à rétablir nos origines, tout simplement. De l'époque de l'Union soviétique, donc dans nos passeports, c'était écrit russe. Et puis avec l'indépendance de l'Ukraine, on est devenu ukrainien parce qu'on vit sur le territoire ukrainien, on est né, notre vie, c'est l'Ukraine. Ouais. Et donc aujourd'hui, je suis ukrainienne, de toutes les façons. Ouais. C'est vraiment une question d'histoire. Ouais. Parce que la Russie kievienne, la Russie, elle est partie de Kiev. Ouais. Et donc, si vous renseignez un petit peu, vous documentez, vous trouverez toutes ces réponses.
Oui. La Russe de Kiev, comme on l'appelait, je crois, c'est ça.
Kievska Russe, exactement.
Du coup, on a du mal à comprendre comment se fait-il qu'aujourd'hui, Vladimir Poutine attaque l'intégralité de l'Ukraine. On pouvait s'attendre à ce qu'il s'en tienne au Donbass, par exemple, parce que cette guerre, finalement, elle a commencé, elle n'est pas d'aujourd'hui, elle a démarré en 2014-2015 avec
l'annexion de la Crimée.
Oui.
Ça, c'est une... Enfin... Vous savez, j'ai les mêmes informations vu que ça fait 20 ans maintenant que je vis en France. J'avoue que je n'ai pas toujours suivi les événements et la situation en Ukraine. Donc moi, je ne possède que les informations comme vous ici en France.
Ouais. Et vos parents, par contre, vivent toujours là-bas ?
Ma famille vit là-bas.
Vous arrivez à avoir des contacts ? C'est possible en ce moment ?
Oui, toujours. J'éteins plus mon téléphone, même la nuit. Donc, je communique avec mes parents par Skype. C'est une invention géniale, finalement. Et donc, oui, ils me donnent des nouvelles tous les jours parce que je l'exige, je demande, je suis inquiète, voilà. Et donc, et mes parents, je ne peux pas leur poser les questions sur ce qui se passe, la situation en Ukraine. Parce qu'ils ont gardé quand même une certaine peur d'être entendus, d'être sur écoute, d'être... Ça, on a connu, ça nous est arrivé déjà, dans ma vie aussi, d'être être suivi.
Les vieux restes de l'époque soviétique.
Voilà, donc comme je faisais partie, une petite parenthèse, de l'Alliance française à Zaporizhia, donc on faisait beaucoup de... d'activités culturelles principalement et sous l'égide de l'ambassade de France à Kiev. Donc on recevait souvent des Français, des artistes, des musiciens. Et donc il m'est arrivé d'être appelé un soir de mon anniversaire et d'être questionné sur toutes ces activités.
Ah oui. On a du mal à s'imaginer, bien évidemment.
Mais donc c'était une drôle de sensation.
En tout cas, merci beaucoup d'avoir donné ce témoignage. On va maintenant, évidemment, grâce à vous d'ailleurs, on va pouvoir interviewer Yalin qui vient de quitter, pratiquement.
Il y a 10 jours. Disons un petit 15 jours à peu près, puisque le voyage était long.
Ouais. Alors comment il est arrivé justement à Berlin?
Alors, Кристоф спрашивает, как тебе удалось, как ты попала в Берлин и как мы смогли тебя забрать?
Ну, из Запорожья на тот момент шли эвакуационные поезда. Uh-huh. То есть там люди абсолютно бесплатно, в порядке живой очереди, могли сесть на поезд.
Uh-huh. Je vais traduire par petits mots. Я маленькими такими кусочками буду. Donc, elle a... pu prendre le train, donc il y avait les trains qui étaient qui circulaient et exprès pour permettre aux gens de partir les trains gratuits jusqu'à Lvov ou les villes qui se rapprochent de la frontière polonaise ou roumaine.
Три поезда в день подавали. Очередь была очень большая на поезда, то есть больше километра каждый день. Женщины и дети в очередях.
Et donc là, il y avait trois trains par jour qui partaient de Zaporizhia. Et c'était les queues assez importantes, un kilomètre peut-être même. Et il y avait principalement des femmes et des enfants qui essayaient de partir, de quitter le pays.
Ну, я ехала поездом, который следовал к Львову. Это только сидячие места, то есть в плацкарте в одном отделении сидело 10 человек, поезд идет без света, то есть в маскировочном режиме, чтобы не могли увидеть движение поезда по рельсам.
Donc le premier train qu'elle avait pris après 5 heures d'attente pour pouvoir monter dans le train, c'était le train Zaporizhia-Lviv. Donc la distance, c'est, enfin, le train il met 24 heures pour y arriver, c'est 1000 km. Donc le train était bien rempli et donc il y avait que des places assises. Donc le train circulait en régime sans lumière pour ne pas attirer l'aviation. Без света, потому что
маскировочный
режим. Le noir total.
C'est-à-dire que